faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie. Voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème.
Gloire à Dieu. Amen. 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 Ah Seigneur, merci pour toutes choses. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ces instants. Merci pour ce moment que tu nous donnes en ta présence. Merci vraiment pour toutes choses. Merci pour ce mercredi des vainqueurs. Parce qu'en ce jour, tu nous rends plus que vainqueurs dans le domaine du travail. Tu nous donnes de travailler selon toi. Tu nous donnes d'être efficaces dans les œuvres que nous faisons, dans ce que nous entreprenons, dans les actions que nous menons, par ta grâce et par ta force toute puissante. Saint-Esprit, merci parce que tu prends le contrôle. Tu m'inspires les mots, Esprit de l'Éternel. Oh Saint-Esprit, tu dépasses mes limitations physiques, Seigneur. Tu es émotionnel et tu communiques par ta grâce à tes serviteurs, à tes servantes, à tes enfants, la parole qui vient de toi. Car c'est celle qui vient de toi qui apporte la vie. Merci pour tout ce que tu nous dis, tu nous enseignes sur, Seigneur Dieu, le travail. Tu nous rends plus que vainqueurs dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine des activités professionnelles que nous menons. Merci Père pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, amen. Amen. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dis avec moi le travail. Le travail. Voilà, nous continuons en ce jour notre série d'enseignements sur le travail efficace ou le travail qui est béni de Dieu. Jean 6, verset 27, le Seigneur Jésus nous dit qu'il y a deux manières de travailler. Il y a une façon de travailler qui produit une nourriture qui périt, c'est-à-dire un salaire périssable. Il y a une manière de travailler qui produit un salaire pour la vie éternelle. Alléluia. Le salaire qui périt, c'est tout salaire suite à notre travail qui est limité à un intérêt seulement sur la terre. Hein? Donc, c'est l'argent. En fait, c'est tout ce que les hommes peuvent nous donner comme matériel. Le travail spirituel qui est béni pour la vie éternelle, ce sont des grâces que Dieu vous accorde. Alléluia. Qui vont au-delà de l'argent, qui vont au-delà de la matière, qui peuvent aller jusqu'à la paix dans la maison, la joie, la santé. Amen. Et quand vous travaillez selon Dieu, vous avez la faveur et la grâce de Dieu. Dieu bénit le travail des mains. Malheureusement, beaucoup de personnes, y compris les croyants, ne font pas trop la distinction entre ces deux manières de travailler. Plusieurs parmi nous fournissent des efforts, vont au travail tous les jours, mènent des activités professionnelles, ont des plantations, ont des entreprises, mais ces personnes-là ne travaillent pas avec le bon esprit, avec la bonne mentalité. Et quand vous ne travaillez pas avec la bonne mentalité, n'est-ce pas, vous avez de mauvais résultats. Vous avez les résultats qui n'étaient pas censés être les vôtres, c'est-à-dire beaucoup de difficultés, le travail qui va lentement, vous tournez quelquefois en rond dans vos entreprises où vous avez un salaire. Quelquefois, il est grand, même il est petit, mais il ne suffit jamais pour finir le mois. Quand vous travaillez, votre argent part partout, des dépenses, vous ne comprenez pas. C'est comme s'il n'y a pas la main de Dieu, la bénédiction de Dieu dans ce que vous faites. Or, la Bible dit ceci, que Dieu va bénir le travail de nos mains. Amen. Il y a d'autres raisons. Il y a d'autres choses qui entraînent la faveur de bénédiction sur notre travail. Par exemple, la Bible dit, amener à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Alléluia. Ça, c'est un aspect, mais ce n'est pas de cela que nous parlons. Parce que là, c'est Dieu qui ouvre les écluses des cieux pour arroser ce que nous faisons. Dieu va ouvrir. Donc, la dîme et les offrandes ont une incidence sur le ciel. Amen. Tandis que le travail est l'activité que nous menons. La façon dont nous partons au travail, la façon dont nous gérons nos entreprises, la façon dont nous, si nous sommes un balayeur, la façon dont nous balayons, si nous sommes standardistes, la façon dont nous traitons, nous sommes assis au standard. Si nous sommes chants, si nous sommes musiciens, la façon dont nous faisons de la musique, je dois composer des chants. Le travail dont Dieu parle, c'est la façon dont je chante. Si je suis un prédicateur, le travail dont l'Éternel parle, c'est la façon dont je travaille ma prédication. Quel que soit le poste, la fonction que je fais, c'est la façon dont je mène ces activités. Si on ne m'a pas embauché, que je ne travaille pas dans une entreprise, Le travail, c'est la façon dont je gère ce que j'appelle mes temps libres. Tout ça aussi, c'est le travail. Le paresseux dit, il n'y a pas de boulot. Le travailleur selon Dieu, même dans ce qu'on appelle le temps libre, il trouve toujours une activité à faire. Un homme qui est travailleur selon Dieu a toujours une activité à faire. Dieu dit ceci, Jésus dit ceci, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Donc le travail selon Dieu, c'est l'esprit avec lequel vous menez vos activités, y compris lorsque on ne vous a pas embauché, on ne vous a pas pris dans une structure de la place. Le travail n'est pas limité aux structures d'embauche, aux boîtes, à la fonction publique. C'est pas ça forcément le travail. Le travail est dans tous les domaines. Alléluia. Pour les élèves, les étudiants, le travail, c'est la façon dont vous étudiez. Amen. Il y a une manière d'étudier ses leçons. Il y a une manière de faire ses cours à l'école qui n'est pas selon Dieu. Tu peux étudier, tu peux être méticuleux, tu peux faire beaucoup de devoirs, mais ne pas travailler selon l'Esprit de Dieu. Et les résultats que tu vas avoir peuvent satisfaire le monde, mais peuvent ne pas te donner les résultats divins. Alléluia. Donc, tu peux être aussi étudiant, tu peux être aussi élève et travailler avec l'esprit dont nous sommes en train de parler et voir les résultats divins. Amen, amen, amen. Amen. Et le salaire de Dieu, comme nous l'avons dit les précédentes fois, est vraiment complet. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc la véritable richesse vient de l'Éternel. Amen. La vraie richesse. Les richesses du monde sont déséquilibrées. Tu peux avoir des milliards pendant que tu as des troubles dans ta famille. Tu peux avoir des milliards pendant que tes enfants sont tout le temps malades. Tu n'es pas béni de tous côtés. Mais ce soir, Dieu veut te lever, Dieu veut bénir le travail de tes mains. Dis amen à cette parole. Car je le déclare sur tes activités dans le nom de Jésus. Alléluia. Et on a vu que le travail selon Dieu a deux caractéristiques essentielles. Et c'est celle-là que nous sommes en train d'étudier. Le travail selon Dieu a été communiqué à Adam et à Ève avant que Dieu leur annonce la malédiction du sol. La malédiction du sol, en Genèse 3, décrit un travail compliqué à laquelle l'humanité était soumise. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Ça, c'est le travail négatif. Amen. Dieu nous en a délivrés. Si nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes délivrés de cette malédiction. Mais pour nous, les fils de Dieu, nous sommes la seconde génération. Nous sommes des nouvelles créations et nous sommes de facto sous la bénédiction d'origine. Amen. Amen. Et Dieu nous dit, comme il a dit au premier Adam, avant qu'il ne chute, il lui dit ceci, je vous mets dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le... Quelles sont les deux caractéristiques du travail? Cultiver, garder. Ça veut dire quoi? Toute activité professionnelle que l'Éternel va te confier, même si tu ne les as pas choisis, mais tu crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire, si l'Éternel permet que, malgré ton diplôme, malgré tes hautes études, tu te retrouves dans un endroit en train, par exemple, de vendre du garba ou du pain sur la route, cette activité-là vient de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir un songe pour te confirmer que tu devais être assis en train de vendre ton pain brochette ou vendre de la loco. Tu n'as pas besoin d'un songe. Si la souffrance de la vie, les souffrances de la vie t'amènent là, fais ce travail-là comme si c'était le plus gros travail qu'on t'avait donné. Parce que c'est certainement à partir de là que Dieu va te bénir. Les problèmes de la vie peuvent vous amener à mener des choses qui n'ont rien à voir, à faire des activités qui n'ont rien à voir avec votre niveau de formation, qui n'ont rien à voir avec votre diplôme. Tu peux te retrouver, tu as un doctorat, non, ou bien une licence, une maîtrise en tout cas, mais le problème de la vie t'amène par exemple à gérer, à gérer une cabine téléphonique. Donc on te voit assis à la cabine, on ne sait pas, mais là où tu es un maîtrisard. Mais la vie, mon frère, la vie t'a conduit là. Et quand Dieu va te conduire dans la cabine, il faut savoir que ce n'est pas un hasard. Parce que tu aimes Dieu et que forcément, toute chose concourt à ton bien. Alléluia. Alléluia. Et là où tu te trouves, à la cabine cellulaire, là où tu te trouves dans ce petit boulot ou dans un grand boulot, selon les hommes, parce que ce sont les hommes qui font telle chose est grande, il faut être DG, c'est grand, vendeur de garba, d'acheke, c'est pas bien, tout ça, peu importe. Pour Dieu, tout a de la valeur. Alléluia. Alléluia. Dieu te dit ceci, dans l'activité que tu mènes, ce que tu fais, ce qu'il t'a donné, qui est censé te rapporter un tout petit bénéfice selon les hommes, ce que tu demandes, il dit, il faut cultiver ce travail, il faut le garder. Si tu vends de la loco, cultive la loco, cultive la vente d'aloco, garde la vente d'aloco. Si tu fais une cabine téléphonique, cultive la cabine téléphonique, garde la cabine téléphonique. Si tu es standardiste dans une entreprise, cultive ton activité de standardiste, garde ton activité de standardiste. Si tu es DG, cultive la direction générale, garde. Ah, tout le monde a envie de garder la direction générale. Mais garde la direction générale. Amen. Alléluia. Si tu es ministre, gloire à Dieu, cultive ton ministère, garde ton ministère. Je ne suis pas en train de dire forcément de garder ton poste. Amen. Mais je parle de garder l'esprit du travail. On y arrive. Amen, amen, amen. Amen. Tout ce que Dieu te donne est une bonne chose. Tout ce que Dieu permet que tu fais est forcément une bonne chose. Et un de nos modèles dans cet enseignement, c'est exactement l'exemple de Joseph. N'est-ce pas? Qui est d'une famille noble, qui est d'une famille riche, mais qui se retrouve comme esclave, sans salaire, sans entrée particulière, chez un monsieur nommé Potiphar. Joseph est là. À cause de la méchanceté des hommes, à cause de la trahison, à cause du cœur corrompu des hommes, et particulièrement de ses frères, Joseph se retrouve esclave, traité peut-être dans la misère. Mais Joseph va travailler avec un bon cœur, avec un bon esprit. Alléluia. La Bible dit qu'il va, entre guillemets, cultiver le travail qu'on va lui donner chez Potiphar. Des petites activités qu'on lui confiait, Joseph va amener la maison de Potiphar, ou bien la société Potiphar, Potiphar Nko, alléluia, a devenu une grosse entreprise. La Bible dit que Potiphar va prospérer sous la main de Joseph. Joseph, en tant qu'esclave, n'avait certainement pas un salaire ou un salaire important. Le luxe, la vie qu'il avait chez Potiphar était, n'avait rien de comparable à la vie qu'il menait chez son père. Il s'est retrouvé là dans des circonstances involontaires et malgré cela, il y a donné tout son cœur. De manière injuste, Joseph va se retrouver aussi en prison. Mais quand vous lisez les commentaires qui sont faits de la vie de Joseph en tant que prisonnier, vous êtes édifié. Et la Bible dit que tellement il faisait du bien à la prison, que le chef de la prison l'a nommé Joseph comme son adjoint. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui se retrouve en prison de manière injuste, sous un mensonge, ne vient pas avec l'amertume dans le cœur. Ne dites pas, vous les autres prisonniers, vous êtes des voleurs. Moi, Joseph, je suis un homme honnête. C'est mon honnêteté. C'est parce que je n'ai pas voulu dormir avec cette femme que je me retrouve ici. Si j'étais parti avec elle, si j'avais même couché avec elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais j'ai cherché à vivre dans la droiture et voilà le prix de ma droiture. Voilà le prix de ma sainteté. Voici le prix de mon honnêteté. C'est la prison. Un homme comme ça qui arrive en prison, en tout cas la majorité d'entre nous aurait été aigri. Quand on allait vouloir te confier quelque chose en prison, non. Parce qu'on vous connaît maintenant en Égypte ici. Vous confiez le travail aux gens, on commence à bien travailler. Après, les gens mentent sur nous puis vous acceptez. Potiphar qui est là, ça fait combien d'années que je suis avec lui? Quel mal je lui ai fait? Je n'ai jamais pris 5 francs dans son argent. Si je n'ai pas pu prendre de l'argent, je n'ai jamais volé son argent. Comment c'est sa femme que je vais aller prendre? Voilà comment les hommes vous récompensent dans la vie. Et je me retrouve en prison. J'arrive en prison. Maintenant, toi en prison, là, le chef, tu es venu me confier du boulot. Je ne veux pas, laisse-moi dans mon coin. J'ai cherché Dieu. Si Dieu veut me tuer, il n'a qu'à me tuer. Je ne travaille plus. Non, Joseph s'est mis à travailler. Il a répondu, c'est là qu'est venue sa bénédiction. C'est les activités qu'il a menées qu'est sortie sa bénédiction. Donc bénissez Dieu pour ce qu'il vous donne. Même si c'est un travail injuste, même si c'est par la méchanceté d'autrui, la méchanceté d'un individu que vous retrouvez là aujourd'hui, bénissez Dieu. Tout cela vient de l'éternel Dieu et c'est à partir de là qu'il va vous élever et qu'il va vous bénir. Amen. Alléluia. Alors comme Joseph, on a dit ceci, travailler selon Dieu, c'est cultiver. Et cultiver et garder. Première des choses, dans la notion de cultiver, on a cité qu'il y a 6 attitudes pour cultiver selon Dieu. C'est-à-dire que je veux cultiver mon activité professionnelle. Pour cultiver mon activité, qu'est-ce que je dois faire? Cultiver mon activité, la première des choses que je dois faire, nous l'avons dit la dernière fois, amen, c'est cultiver en recherchant le salaire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout cultivateur, lorsqu'il va faire la semence, la Bible dit cultiver. Cultiver, pour comprendre, ce n'est rien d'autre que ce que vous savez que nos parents paysans font au champ. Amen. Ils cultivent un champ. Donc si vous voulez comprendre ce que Dieu attend de vous sur le plan professionnel, il faut faire une comparaison, il faut faire un parallèle avec l'activité d'un bon cultivateur. Alléluia. La façon dont il se comporte dans un champ, la façon dont il cultive son champ, est un bon exemple pour comprendre ce que Dieu attend de vous dans le champ qui est le petit travail qu'il vous a donné, ou entre guillemets le grand boulot qu'il vous a donné. C'est ce que Dieu attend de vous. Amen. Toute personne va au champ toute personne commence à planter avec un projet. Toujours, il y a tout un projet. On ne plante pas dans le hasard. Amen. Il y a un but. Et le but, c'est le fruit de ton champ. C'est-à-dire ce que tu attends en retour. Et j'ai dit, pour cultiver, il faut penser à la rémunération divine. C'est-à-dire, Joseph, en travaillant chez Potiphar de cette façon-là, qu'est-ce qu'il recherchait? Du moins que Potiphar ne pouvait pas le payer. Amen. Il était un esclave. Lorsqu'il était en prison, pourquoi est-ce qu'il mettait autant de zèle à travailler pour le chef de la prison? Pendant qu'on n'allait rien lui donner en retour. C'est parce qu'il avait en vue une autre récompense. Amen. Qu'on appelle le salaire divin. Et c'est ce salaire divin-là, lorsqu'il s'est manifesté, qu'il a ouvert les portes et qu'il a conduit à la position de premier ministre. Si vous n'avez pas en vue la rémunération divine, si vous n'avez pas en vue que le travail que vous fournissez, pour lequel les hommes sont ingrats, vous concernant, pour lequel les personnes ne reconnaissent pas ce que vous faites, si vous n'avez pas en vue le salaire de Dieu, vous allez vous décourager. Et parce que je vais toucher quelques points sur garder le travail aujourd'hui. Si vous n'avez pas le but en vue, vous allez vous décourager et votre cœur va être rempli d'amertume. Vous suivez? Si le salaire de Joseph, c'était les acclamations et la reconnaissance de Potiphar, il allait avoir une autre attitude. Mais comme il cherchait un salaire divin, voilà ce qu'il a dit à la femme qui voulait le conduire dans l'adultère. Il dit ceci: madame, je respecte trop ton mari. Et puis, je ne peux pas faire ça à Dieu. Parce que Joseph savait qu'il y avait un jugement, après tout. Quand vous travaillez, il faut savoir qu'un jour, il y a un jugement. Alléluia. C'est ça le salaire de Dieu. Le salaire qui reste jusque pour la vie éternelle. Il faut savoir qu'un jour, on va vous récompenser pour ce que vous avez fait que les hommes n'ont pas vu. Amen, amen, amen. Amen. C'est la première attitude avec laquelle vous devez mener vos activités. Tu as la cabine téléphonique, tu dois dire, ça je le fais pour Dieu. Et le sujet avec lequel je gère la cabine, qu'on m'a confié, j'aurai ma récompense auprès du ciel. Cherchez la récompense qui vient du ciel. Deuxièmement, travaillez en ayant foi dans les faibles commencements. Tout planteur va au champ avec une semence. Il a envie de planter du cacao, il ne va pas avec des cacao. Il ne va pas avec des arbres, il ne va pas avec des cacaoyers. Il va toujours avec la semence. C'est à partir de là que tout commence. Tout travailleur doit jamais négliger cultiver selon Dieu. Cultiver, ce que tu cultives, c'est considérer les faibles commencements. Alléluia. Si j'aspire à gérer une multinationale, mais qu'aujourd'hui, je me retrouve à la cabine cellulaire, qui est tout petit, qui n'a rien à voir avec la multinationale que Dieu m'a montrée en songe, je dois considérer cela comme une semence. C'est-à-dire la cabine cellulaire qui ne me rapporte rien à la fin du mois, je dois bénir Dieu pour cela et ne jamais négliger les faibles commencements. Ceux qui négligent les faibles commencements n'auront jamais les choses de Dieu. Alléluia. N'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas. C'est-à-dire ne vous bloquez pas là et puis de dire, moi je ne peux pas travailler. On dit pourquoi? J'attends que la banque me fasse un gros prêt pour pouvoir mener mes activités. Frère, tu vas durer. Tu vas durer. Cherche autour de toi ce qu'il y a. Quand vous attendez des fonds pour commencer un projet, si les fonds n'arrivent pas, c'est sûrement que Dieu est en train de vous dire, à côté de vous, il y a une activité à faire qui est petite, mais vous la méprisez. Vous la négligez. Or, c'est à partir de là que Dieu va vous bénir. Il y avait cette femme-là qui avait des difficultés financières. Elle n'avait pas d'argent et ses enfants s'apprêtaient à être livrés en esclavage. Lorsque l'homme de Dieu arrive, il dit, madame, c'est la petite bouteille d'huile qui est dans ta maison qui est la clé de ta bénédiction. Vous savez, la chose se trouve auprès de vous, mais elle est insignifiante. Et souvent, vous attendez qu'un parrain, qu'un mentor, qu'un mécène, qu'un, je sais pas, un tonton, qui ça? Voilà, un bon samaritain passe par là pour financer le grand projet que vous avez. Si vous priez et que le bon samaritain n'arrive pas, si vous jeûnez et que le bon samaritain n'arrive pas, si vous partez à des retraites, et que le bon samaritain n'arrive pas, c'est que Dieu vous a déjà répondu. La clé se trouve à côté de vous, quelque part. Tu vas dire, c'est quoi? Je ne sais pas. Ça peut être, va prendre tes chaussures, ou bien va prendre les bouteilles qui sont dans ta maison là, et puis va au marché, commence à les vendre. Tu as dit, Seigneur, je n'ai pas les transports pour aller au marché. Dieu dit, prends les bouteilles. La maison où tu habites, vous avez bu beaucoup d'eau minérale, il reste les bouteilles vides là, va les vendre. Le miracle peut commencer là. Beaucoup de personnes restent dans la pauvreté parce qu'ils ne savent pas voir les petites choses que Dieu a déposées à côté d'eux. Cette femme-là, ce qui a la façon de sa situation, c'est juste une bouteille d'huile. L'élévation ne vient pas des hommes, l'élévation vient de Dieu. Dieu est capable de transformer cette vente de bouteilles d'eau en multinationale de vente de boissons et de sodas. Dieu peut le faire. Dieu n'a aucune limite. Il dit à cette femme-là qui avait juste un peu de pain, un peu de farine, il dit, commence avec cela. Et elle n'a plus jamais manqué de rien. Donc ne méprisez pas les faibles commencements. Ne dites pas, qu'est-ce que je vais faire avec ceci? Ne méprisez pas les choses qui sont autour de vous. Ne méprisez même pas, tu m'excuses, je peux dire même, les vieilles chaussures qui te restent à la maison. Ton miracle peut venir de là. Tu pries pour avoir les fonds n'arrivent pas. Tu vas voir ton tonton, il ne parle pas. Tu vas voir le monsieur, tu dis, hier j'ai prié, j'ai eu l'impression que tu dois me faire une offrande. Tu jeûnes sur le monsieur, il ne réagit pas. Tu le lis et tu le délies dans le nom de Jésus, il ne réagit pas. Tu attrapes le banquier, tu lis le banquier, tu le délies, tu prophétises, tu as fait, et le banquier ne réagit pas. Si l'église comprend ceci, elle va voir le miracle de Dieu. Jésus-Christ a changé la vie de certaines personnes à partir de rien. Mais c'est toujours ce que ces gens-là avaient. Il n'est jamais venu voir une personne qui était en difficulté et puis dit, je vais parler à quelqu'un pour toi qui va t'apporter quelque chose. À partir de là, tes affaires vont marcher. Lisez votre Bible, ça ne marche pas, ça n'existe pas. Il vient te dire, ah madame, il y a quoi? Jésus, ça marche, ça ment sur moi. Comme on dit en ivoirien, c'est dur. Il dit, ah bon? Bon, je vais prier le chef, le président de la région, le maire va se souvenir de toi. Non? C'est toujours, qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce que vous avez? Nous avons 5 pains, 2 poissons. Toujours, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Jamais, qu'est-ce que les gens ont pour toi? C'est une phrase qu'il ne prononce pas. Pourquoi vous voulez que Dieu dise cette bouche-là? Lis ta Bible. Il n'a jamais dit, qu'est-ce que les gens ont pour toi? C'est toujours, qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que toi tu as? Dis, j'ai 2 chemises. Amen. Et puis Dieu dit, bon, comment on peut changer le monde à partir des 2 chemises? Et c'est là qu'on voit le miracle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Là, je parle pour les petites activités, mais cela est vrai. Si vous avez fait des études, vous avez souffert, vous avez fait de grosses études, vous arrivez, on vous confie un petit service qui ne vaut pas votre compétence. Bénissez Dieu, parce que c'est à partir de là, votre miracle va commencer. Alléluia. Toi, avec ton diplôme, normalement, on aurait dû te mettre chef de service, mais on te donne une position insignifiante. Bénis Dieu. Parce que c'est là que tu dois faire l'épreuve. Il y a des gens qui arrivent bardés de leur diplôme, ils s'attendent à des choses par rapport à ce qu'ils estiment être leur niveau. La vie ne vous fait pas tout le temps ses faveurs. Et si vous regardez cela avec votre diplôme, avec vos connaissances, moi, je viens, je suis diplômé de Harvard. Abidjan, si tu vas avoir des problèmes, mon ami. Alléluia. Et personne ne t'ouvre les portes. N'aie pas peur de commencer petit. N'aie pas peur de prendre les petites choses. N'aie pas peur de prendre les petits postes. Si c'est tout ce qu'on t'offre, si avec ton diplôme, on t'ouvre une grande porte, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais ça fait un an que tu es en train de chercher du travail. Tu es sûr que Dieu ne t'a pas montré un truc qui est plus petit que tu as méprisé? Alléluia. Alléluia. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu commence très rarement avec des crédits. Ouais. Dieu commence très rarement avec des emprunts. C'est rare. Il faut un réma pour aller emprunter l'argent. Il faut un réma. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu te dise, vas-y. Si Dieu ne t'a pas dit, mes amis, je vous parle de ma vie. J'ai vu des opportunités où on m'a prêté l'argent. J'ai regretté pendant de très longues années. Je pensais que c'était la porte qu'on m'ouvrait pour mes affaires. Ce que ça m'a montré. J'ai dit, Seigneur, tu n'étais pas là-dedans. Il dit, c'est parce que tes yeux ont vu l'argent et tu as tremblé. Tellement tu étais content devant l'argent, tu as entendu la voix de ton âme. Mes amis, on me propose 10 millions pour mener mes affaires. On me propose. Est-ce que je peux entendre une voix qui me dit, c'est pas Dieu, ne prends pas. Même si le Saint-Esprit me disait ça, à cette époque-là, ça allait être dur. 10 millions frais, comme ça. Est-ce que je peux entendre une autre voix? En ce moment, je n'ai pas d'argent. Ma femme cherche l'argent, on cherche comment on va entreprendre. On veut ouvrir une entreprise. Mon ami vient dire, je peux te donner 10 millions. Moi, c'est un ange, c'est Dieu même qui l'a envoyé. Oh, c'était pas Dieu. Mais mes yeux étaient aveuglés. 10 millions, mes yeux brillaient comme ça. Je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Mais là, c'est parce que j'étais un enfant. Mon discernement n'était pas encore aiguisé. Et je suis rentré dans cet emprunt. Tout ce que j'achetais avec cet argent est tombé à l'eau. Tout. J'ai acheté un colis, on a volé. Donc je dois maintenant à l'entreprise. Ça veut dire, c'est comme une malédiction même. L'argent est devenu comme une malédiction. L'argent m'a créé des problèmes. 10 millions, je n'ai rien vu là-dedans. On a pris, on a loué un local. Aucun marché, aucun. J'avais plein de relations. Je vais voir. Oh, je vais appeler un tel, c'est mon ami. On a fait les études ensemble. Je vais t'aider. Il dit, va m'aider. Il tourne jusqu'à pendant ce temps, la boîte tourne. Il faut payer les charges, il faut payer l'électricité, il faut louer le local, ça compte. Donc, on a ouvert, on a mis, on a décoré l'endroit. Les 10 millions.
pas un client n'est rentré et puis il a laissé l'argent. On a décoré jusqu'à un monument, on a enlevé la déco, on a vendu les chaises, on a vendu les ordinateurs, sans rien. Mais je priais. Dis à un voisin, réveille-toi. À un moment donné, je voulais prendre un crédit pour payer le crédit. Parce qu'on me mettait la pression. Jésus dit non. Tu as assez souffert, c'est bon comme ça, reste tranquille. Si on veut t'amener en prison, on va t'amener en prison. Il y a un frère qui m'a écrit, dit, pasteur, j'ai des problèmes, j'ai pris l'argent d'une entreprise, on me doit. J'ai dit, accepte d'aller en prison. Il dit, comment? Demande pardon. Si il ne te pardonne pas, va en prison. Assume ce que tu fais. La prison, ce n'est pas un péché. C'est ce que tu fais pas en prison là qui est péché. Mais quand tu es en prison, ce n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un péché d'être prisonnier, donc n'aie pas peur. Dans la Bible, on a eu beaucoup de héros prisonniers. Donc, amen. Voilà, c'est ce qu'on fait. C'est pas aller en prison, c'est ça qui n'est pas bon. Amen, amen, amen. Donc, n'ayez pas peur des faibles commencements. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La solution se trouve près de vous. Et avec les petites choses qui étaient avec moi, les petites choses que je pouvais faire, Dieu m'a sorti de cet endettement. Dieu m'a sorti de cette situation. Dieu m'a libéré des huissiers qui frappaient à ma porte parce qu'il y avait tout le temps des huissiers qui venaient là. On va prendre tes meubles, on va vous enfermer. Vous allez faire ceci, vous allez faire cela. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Ce qu'il doit faire, ils n'ont qu'à faire. Ma femme pleure. J'ai dit, si c'est la prison, on m'a dit que passer ça nous va en prison. Mais j'assume. J'ai fait un mauvais choix dans le passé. Je vais payer le prix. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, je suis ton serviteur, Seigneur. Qu'est-ce qu'il doit faire? J'étais prêt. Si c'est pour aller dormir dans la rue, je vais dormir dehors. Ceux qui dorment dehors sont des enfants de Dieu aussi. Dieu les aime. Ceux qui n'ont pas de toi sont aussi des enfants de Dieu. Jésus est né. Jésus, que nous on adore, qu'on célèbre. Il est né dans un endroit où il y avait les pipis et les excréments des moutons. Pourquoi un chrétien ne peut pas dormir dehors? Pourquoi? Pourquoi aller s'endetter, prendre, se créer des problèmes? On dit non, si je n'ai pas aujourd'hui, si je n'ai pas de loyer, on va me mettre dehors. Mais ceux qui sont dehors, ceux qui dorment dehors, ce sont des hommes. Ce sont des enfants de Dieu. Dieu les aime. Jésus, même le Fils de Dieu, n'avait pas de toi. Pourquoi toi ça ne peut pas t'arriver? Pourquoi? Tu peux commencer ta vie en dormant dans la rue. Ce n'est pas un crime. Mais si tu sais considérer et bénir Dieu, pendant que la pluie te frappe, tu n'as même pas d'endroit où te cacher. Et dis, Seigneur, même à partir de là, tu peux me faire sortir. Si tu gardes cela dans ton cœur, Dieu va t'élever. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit à ce monsieur, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Ça veut dire Jésus n'avait pas de maison. Il y en a qui viennent passer au secours. Maintenant, on va me vider. Jésus n'est pas de maison, on l'a vidé. Quand il a dit, on pensait que c'est pour frimer. Il dit, monsieur, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu repouiller sa tête. S'il mentait, le disciple dit, hé, Jésus, on connaît ta maison? On connaît. Pourquoi tu dis que tu n'as pas de maison? Tu as une maison? Il y a un moment donné, je ne sais pas pour quelle raison, il n'en avait pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alléluia. Mais ce n'est que le début. Et Dieu peut faire quelque chose. Ne méprisez pas le fait de cultiver. Cultiver, c'est ne pas avoir peur de commencer petit. C'est ne pas avoir peur de commencer là où on est. C'est ne pas avoir peur de dire, je n'ai pas ça. C'est être vrai avec soi. C'est être honnête. Là où Dieu m'a laissé, c'est là que je commence. C'est qui m'arrive, c'est ce que je dis à mon épouse. On ne peut pas essayer de faire semblant. On ne peut pas essayer d'aller jouer de nos relations, tout ça. Là. Il faut qu'on assume. Ou on est un Dieu vivant, ou il n'est pas vivant. C'est tout. Donc, on part de rien. Acceptons notre position d'abord pour que Dieu nous amène quelque part. Et quand on a accepté, lorsqu'on a prié, c'est en ce moment-là que Dieu a ouvert nos yeux. Il a dit, voilà, faites ceci. Et il a béni tout ce qu'on a fait. Tous les projets qu'on a fait, on a pu rembourser la dette. On a pu rembourser toutes choses. On est sorti de là avec la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Et Dieu nous a encore bénis. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Ça fait des choses que j'ai dites, mais j'aime revenir là-dessus. Cultiver, c'est développer. C'est améliorer tout ce que vous touchez. Cultiver. On dit qu'il faut te cultiver. C'est améliorer toute chose. Si Dieu te donne un travail, il faut l'améliorer. Il faut qu'il soit meilleur. Il ne faudrait pas que la façon dont on t'a trouvé sur ce travail hier, tu sois comme ça demain. Cultiver, c'est développer une chose. Si un paysan plante sa graine et que son maïs garde la même taille, ne se développe pas, il y a un problème. Tout grandit avec l'Éternel. Cultiver, c'est faire grandir. Si on te donne une cabine cellulaire, dans 2 mois, tes intérêts doivent augmenter. Ça veut dire, le bénéfice que tu fais doit augmenter. Tu dois réfléchir. Pas rester là pour trouver une chose. Tu dois travailler ton esprit, ton cerveau. Cultiver nécessite la réflexion. Le travail, ce sont des efforts qu'on fournit. Mais tu fournis un effort dans quel sens? Tu fournis l'effort dans le sens que, Seigneur, On m'a confié la cabine cellulaire. Mon oncle m'a confié vraiment, en tout cas, il est méchant avec moi. Regarde. Avec tout ce que je vends là, regarde ce qu'il me donne. J'arrive à peine à manger à midi. C'est pas grave, mais cultive. La Bible dit, Jésus dit, travaillez pour cultiver. Cultiver. Améliore quand même sa cabine cellulaire. Développe-la. Ton patron t'avait donné une chaise un peu cassée. Faut la réparer. Travaille comme si c'était ta propre chose. La Bible dit ceci. Si tu es fidèle à ce qui appartient à autrui, on te donnera ce qui est à toi. Luc chapitre 16, verset 16. Celui qui n'est pas fidèle à ce qui est pour les autres n'aura pas ce qui est à lui. Tout ce qu'on vous donne, tout ce qu'on vous confie, si vous considérez que c'est pour Dieu, faites-le progresser. Ne travaille jamais dans une entreprise en disant, oh, c'est l'entreprise d'un tel. Les bénéfices sont partis ailleurs. Je n'ai rien à fournir. Je suis là et puis à la pomme me donne un salaire. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Si vous gardez cet esprit, si vous travaillez dans cet esprit, Dieu ne vous bénira pas. Pour que Dieu vous bénisse, il faut que vous vous dites, chaque projet, chaque activité qu'on m'a confiée, si j'ai dit oui, j'accepte ce travail, j'assume. Et je dois le faire bien. Si je le fais mal, peut-être que mon patron ne le verra pas, mais Dieu va le voir et Dieu ne me bénira pas. Si je ne veux pas faire ce travail, je dis non. Si ça ne m'arrange pas, je dis non. Si j'ai dit oui, je ne dis pas oui parce que c'est en attendant. Je dis oui parce que je vais assumer. Et je vais bien le faire. C'est ça, cultiver un travail. Et c'est là que Dieu vous bénit. Cultiver le travail, c'est faire en sorte que vous-même vous progressiez, vous vous cultivez pendant que vous apprenez. Car chaque chose, même être standardiste, révèle des secrets qui vous cultivent vous-même. Si vous décrochez au téléphone, vous devez travailler de sorte que vous améliorez votre langage, votre capacité de répondre aux clients qui appellent votre entreprise, même si vous êtes mal payé. Cultivez cela. Ça veut dire développer la chose. C'est ce que Dieu bénit. Car vous savez que votre salaire vient du ciel et non des hommes. Et le ciel sera ouvert pour vous. Et Dieu va vous faire des grâces. Dis, ah, hein, je me donne un objectif. Si tu 10 personnes qui appellent la boîte, quand je prends le téléphone, Seigneur, fais en sorte qu'il y ait au moins 5 qui signent un contrat. Et tu jeûnes et tu pries pour cela, André, même c'est ton ministère de l'église. Comme si c'était l'évangélisation. Père, je t'en supplie. Oh, Seigneur, je suis commercial. Or, tu sais que les intérêts qu'on te donne sur chaque produit que tu vends sont tellement faibles. Mais fais-le comme si tu vendais pour toi-même. Tu pries même sur les gens que tu vas rencontrer. Je t'en supplie, je prie pour eux. Ouvre-moi les portes. Je chasse tous les diables, tous les démons dans le nom de Jésus. Il y en a qui voient que le diable et les démons sont seulement contre la vie des prières. Le diable est contre ton travail. Satan attaque le travail. Satan n'a pas attaqué Jésus de 0 à 30 ans. C'est quand Jésus a commencé à travailler que Satan l'a attaqué. Quand il allait commencer, le diable est apparu. Ce que le diable craint aussi, c'est le travail, l'activité. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Faites en sorte que votre travail, ça c'est la quatrième chose, faites en sorte que votre travail réponde à un besoin. Amen. Ça dit, soyez une solution. Vous devez rechercher à être une solution. Vous devez rechercher à ce que votre présence enlève une épine dans le pied de votre patron. Vous devez être une réponse de Dieu pour lui, même s'il est méchant. Votre patron doit pouvoir se lever et puis dire, ton arrivée était pour moi une bénédiction. Dieu vous bénira. Alléluia. Alors, ne travaillez pas seulement pour développer, mais travaillez pour que votre développement puisse remplir quelque chose. On l'avait dit la dernière fois. Tout ce que je fais doit remplir. La Bible dit, voici les étapes de cultiver selon Dieu. C'est la fécondité. Fécond, c'est ne pas négliger les faibles commencements. C'est la multiplication. Multiplier, ça veut dire développer la structure, développer ce que je fais. C'est, il dit, multiplier, remplissez. Ici, il parlait de remplir la terre. Mais Dieu est en train de nous dire, tout ce qui se multiplie, c'est-à-dire tout ce qu'on développe, à un moment donné, doit servir à remplir. Remplir, c'est combler un vide. Vous devez réfléchir à ce que votre activité professionnelle répond à un besoin. Vous savez, dans l'église, je ne dis pas que je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire avec Avance d'honneur. Il y a un moment donné, je commençais à développer mes messages, à travailler la parole. Ça, c'était le développement. Et puis, mais j'avais des thèmes. Quand j'enseignais là, c'était bien, mais c'était des thèmes mystérieux. Donc quand tu viens là, c'était bien. Hein? C'est-à-dire, tu as fini, tu ne sais même pas, le message même règle quoi dans la vie. Les quatre portes. Par exemple, l'armée des cieux. C'est-à-dire, je vais t'expliquer des choses qui sont vraies. Mais quand tu as fini, tu dis, L'enseignement est bien. Non, tu peux le retenir. Mais de manière concrète, il ne remplit pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas utiliser l'enseignement là pour aller régler un problème. Remplir, ce n'est pas seulement développer. C'est faire en sorte que ton développement, à un moment donné, soit utile. Amen. Donc, c'est pourquoi il dit multiplier. Mais il dit ne multiplie pas seulement. Vas-y, tu multiplies puis tu ne remplis rien là. Ce n'est pas bon. Il dit et remplissez. Alléluia. Si tu décides de développer le commerce de pain, tu dois améliorer ton pain, améliorer. Et puis à un moment donné, tu ne peux pas le développer à un niveau si tu ne cherches pas quels sont les besoins des femmes à qui tu veux vendre. C'est quoi le besoin de ta clientèle? La qualité de ce que tu fais doit répondre à un besoin. Parce que Dieu nous bénit, Dieu nous conduit au sommet parce que nous devenons utiles aux autres. Vous me suivez? Il dit ceci, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur des autres. Ça veut dire quoi? Ah, pour que Dieu élève une personne et que Dieu la conduise au sommet, il faut que cette personne-là apporte aux autres un service. Ça ne veut pas dire que forcément elle cherche à leur faire plaisir. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Elle développe ce que Dieu lui a donné dans le sens de répondre à un besoin, quelquefois même que les personnes ignorent. Alléluia. Alléluia. Si tu veux faire commerce, tu dis, moi je vais faire commerce. Tu veux faire commerce de quoi? Je vais vendre. Donc, par exemple, tu veux vendre des manteaux. Tu dis, moi je vends les tissus, des vêtements. Tu arrives en France, dans un pays du froid là. On dit, voilà, tiens mon ami, des conteneurs de manteaux. Les manteaux qu'on met à moins 10 degrés. Et tu amènes ça à Abidjan. Paye les manteaux. Mon ami, paye le manteau par la foi. Parce qu'un jour, tu vas aller au Groenland, dans le pays du froid. Bon, les gens même vont réfléchir. C'est trop compliqué. Tu vois? Donc, celui qui veut faire un commerce, celui qui veut développer quelque chose, doit chercher à répondre. Il y a un moment donné, si tu te mets à faire le cellulaire, tu te rends compte, tout le monde le fait. Tu vas commencer à réfléchir, à développer ta cabine en disant, c'est quoi même le besoin de mes clients? J'ai l'impression que peut-être même se lever même pour venir à ma cabine, c'est trop compliqué. Donc, je vais créer un autre service qui va encore mieux les aider. C'est-à-dire, tout développement divin cherche à aider l'homme. Les païens ont fini par comprendre cela. Les entreprises qui ont le plus d'argent sont les entreprises qui résolvent le plus de problèmes. Donc, non seulement ils ont multiplié leurs produits, c'est-à-dire, regardez, au départ, tout le monde veut téléphoner. Donc, les gens ont fait des téléphones. Mais, comme ils veulent te garder, dans un téléphone, ils veulent répondre à tous tes besoins. Si tu veux aller prendre une calculatrice, ils disent, non, calcule à 21 mon cellulaire. Tu veux résoudre un problème? J'ai la solution pour toi. Le développement de leurs produits sont faits en fonction des besoins. Alléluia. Donc la multiplication doit servir à remplir. Il faut toujours vous demander, quand vous travaillez, quand vous multipliez, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je remplisse? Si je suis standardiste, qu'est-ce que tu veux que je remplisse? Si je suis banquier, qu'est-ce que tu veux que je remplisse? Il ne faudrait pas que tous les directeurs qu'on a mis à ma place, il ne faudrait pas que si on m'enlève de cette place-là, je sois remplaçable comme cela. Il faut que ma présence dans cette entreprise résolve réellement des problèmes. Je dois remplir. Amen, amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La cinquième chose. Cultiver. Et donc il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Quoi encore? Assujettissez. Assujettir, nous avait dit, contrôler la chose. Contrôler. Avoir la maîtrise. C'est pas ça? J'ai assujetti la chose. Ça veut dire contrôler. Jusqu'à quel niveau vous devez développer toute activité que Dieu vous donne? Jusqu'à ce que vous maîtrisiez la chose. Jusqu'à ce que cette activité-là n'ait pratiquement plus de secret pour vous. Ça devient pour vous une quête, le contrôle. Et je vous l'ai dit la dernière fois, Joseph a cultivé l'entreprise, les activités professionnelles que Potiphar lui avait confiées. Et c'est parce qu'il a travaillé jusqu'à maîtriser la gestion des récoltes agricoles. Il a maîtrisé la gestion de l'argent de Potiphar. Il a maîtrisé l'économie. Que Dieu lui a plus facilement révélé la solution pour la crise économique qui allait frapper le monde entier. Vous me suivez? Alléluia. Alléluia. Si Dieu veut te choisir pour trouver le médicament du sida, il sera très difficile au Saint-Esprit de te révéler des choses que tu ne comprends pas. C'est-à-dire, il veut te révéler des formules médicales. Bon, par exemple, Jésus vient me voir, il dit, Mohamed, je vais te révéler la formule pour guérir le sida. Dans quel langage on va parler? Bon, nos frères médecins, j'ai déjà fait cet exemple ici. Donnez-moi l'exemple de molécules. Je me souviens à l'époque, quand j'avais dit cette exhortation, on m'a parlé de benzoate. C'est une molécule qui existe. Vous voyez, dans le domaine médical, il y a des molécules, il y a des noms compliqués. Si toi, tu ne connais rien en médecine, comment Dieu peut te révéler le médicament? Quel langage? Comment il va t'expliquer le nom de la molécule? La nuit, tu te réveilles comme ça. Il dit, ma fille, je t'ai choisi pour trouver la solution au problème du sida. Lève-toi et va me chercher des molécules de benzoate. De... Tu as dit, frère, parce que j'ai besoin d'une interprétation. Jésus me parlait en langue ou quoi? Vous comprenez? Ça veut dire, vous ne savez jamais ce que Dieu va faire de l'outil que vous avez. Quand Joseph apprenait à maîtriser l'économie chez Potiphar, il ne savait pas que des années plus tard, l'Égypte allait être confrontée à un véritable problème agricole et un problème d'économie. C'est en ce moment-là que Dieu a pris les bases qu'il avait, le contrôle, la maîtrise de l'économie qu'il avait acquise à force de multiplier, de cultiver l'économie. C'est ce travail-là que Dieu a pris et Dieu lui a dit, fais ceci, fais cela. Donc lorsqu'il s'est levé, pourquoi la salle a acclamé? Aussi, il connaissait l'économie, mais il n'avait pas la solution. Je veux dire qu'on donne une révélation à celui qui étudie quelque chose. Celui qui n'étudie pas ne peut pas avoir la révélation. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Et il faut arriver à la maîtrise. Et non seulement la maîtrise aussi signifie être excellent pour cultiver. Amen. Cultiver, assujettir là, signifie être excellent. Soyez excellent. Vous êtes des musiciens, il ne faut pas simplement vous contenter de jouer et de développer votre capacité musicale. Il faut que la guitare, il faut que la batterie n'aient plus de secret. Ce qui corrompt les personnes, et quand j'arrive dans la partie de garder, ce qui corrompt les gens, c'est que très souvent, lorsqu'ils commencent à multiplier, et lorsqu'ils voient qu'ils atteignent un assez bon niveau, que la population accepte, acceptable par tous, ils s'arrêtent. La Bible dit ceci, si tu vois un homme qui est habile dans son ouvrage, alléluia, Proverbe 22, verset 29, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Vous devez développer votre domaine jusqu'à devenir habile et excellent. C'est à ce niveau-là que Dieu peut vous utiliser. Amen. Et mes amis, il y a de l'excellence en toute chose si vous le faites à fond. Et c'est ce travail-là qui vous ouvre les portes véritablement du sommet. Vous ne savez pas comment Dieu va vous élever. Vous ignorez la façon dont Dieu va vous utiliser. Amen. Ça paraît simple. Et qu'est-ce qui corrompt les personnes? Là, je touche quelques éléments de garder le travail. J'arrive, je commence à jouer. Comme j'arrive à avoir un petit salaire avec, je me contente de cela. Mais le niveau que j'atteins, d'autres aussi ont pu l'atteindre. Je ne suis pas arrivé au niveau de l'excellence, de l'habileté parfaite. Par contre, une fois que vous atteignez l'habileté parfaite, la maîtrise d'un domaine, comme on dit, vous êtes assis auprès des rois. Votre vie commence à devenir une lumière pour les autres. Regardez par exemple comment la drogue est rentrée dans le monde. Pourquoi les jeunes ont commencé à prendre la drogue? C'est parce que des païens sont devenus habiles dans des domaines. Mais tellement excellents. Je donne un nom comme ça qu'on appelle un des plus grands guitaristes de tous les temps. Jimi Hendrix. Quand tu vois même, tu sens que la drogue là... Mais ce qu'il a découvert en force de multiplier sa guitare, son talent, a fait qu'à un moment donné... Que vous l'aimiez ou pas, que la drogue soit prohibée ou pas, les gens sont obligés, les meilleurs musiciens sont obligés de s'asseoir et puis de l'écouter. Et il vient, il est à la télévision, il est devant la jeunesse. Et la jeunesse commence à croire que pour devenir quelqu'un, il faut prendre la drogue. Si la drogue s'est répandue là, de manière inconsciente, tous les Bob Marley ont participé à ça. Approchez-vous de ces personnes et puis demandez comment est-ce qu'ils travaillent la musique. Mais ils sont dans des studios, Ils te font 24 heures, c'est-à-dire que des journées entières, des mois entiers, en train de jouer, en train de chanter. À un moment donné, c'est un peu comme si la voix, le toucher, n'a plus de secret pour eux. Vous êtes entre 10 000 joueurs. Quand ils touchent une corde, son son est différent. La même note, tu la touches, il la touche, il produit quelque chose de différent. Mais en ce moment-là, il devient un modèle. Le truc, c'est que les chrétiens ne cultivent pas. En fait, les chrétiens cherchent l'argent. Donc en fait, mais c'est ça. Oh, on ne travaille pas pour l'argent. L'argent va te poursuivre. Si tu n'es pas excellent, l'argent ne te suit pas. Il y a un moment donné, quand vous atteignez un tel niveau, mais les païens vont prendre votre rythme. Tu arrives, les gens disent, mon ami, je veux que tu joues dans mon groupe. Tu dis, moi je ne joue que pour Jésus. Le chanteur va te dire, bon, moi aussi, je vais chanter Jésus maintenant. Les gens seront obligés parce que ce qu'il y a d'excellent se trouve chez les enfants de Dieu. Mais nous n'avons pas compris le sens du travail. Dieu ne veut pas que nous travaillions pour le matériel. Dieu veut que nous travaillions pour cultiver ce que nous faisons. Car dans la culture, il y a des clés. Et ce sont les clés qui t'ouvrent les portes du règne. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de prêcher dans beaucoup de nations sur la terre. Mais je sais que inconsciemment, je ne l'ai pas fait dans ce but, mais c'est le travail. Développer l'enseignement, travailler encore. Je n'écrivais pas des lettres aux gens. S'il vous plaît, mon ami, je suis un pasteur très loin qui vient en Côte d'Ivoire. Écoute mon message. Hein? Parce que j'ai des gens, ils envoient leur CD. Écoutez, je n'ai pas fait ça. Je ne l'ai pas fait. Je suis en train de travailler, aller dans nos tout bas, dans nos petits villages, pour parler de Jésus. Mais Seigneur, comment répondre? Comment faire en sorte que le message que tu donnes puisse atteindre le plus de personnes? Comment résoudre les problèmes? Seigneur, tu es la solution aux problèmes des nations. Et je vais jeûner, je vais prier, je vais chercher la face de Dieu. Et sans t'en rendre compte, à un moment donné, une fois tu ouvres la bouche quelque part, et on dit, oh, mon ami, on veut que tu reviennes. Tu dis, mais pourquoi? Il y a beaucoup de prédicateurs. On dit, non, on veut que tu reviennes. Les gens veulent que tu reviennes. Quand les gens m'ont invité, on va me faire voyager en classe business. Je paye rien, on paye le billet. Tu voyages bien, tu arrives, si vous arrivez à l'étranger, si vous voyez les hôtels dans lesquels on me met. Mais, quelques temps avant, il y avait les hôtels où je partais dormir à Korogo. Oui, pour aller faire la mission. Bon, là même, je le fais encore. Moi, tu lavais le seau d'eau, tu souffles, tu prends le truc. Mais quand je vais à Londres, aux États-Unis, rentrer dans ma chambre d'hôtel, ça veut dire, tu arrives là-dedans, tu dis, ah! Pour que tu viennes parler, on te paye ton billet. On te met dans un hôtel. Peut-être avant même, tu n'imaginais même pas y entrer. On te loge là-dedans. Tout frais payé. Tu viens et puis tu parles. Et tout le monde assis, tout le monde écoute. Amen. Amen. Quand tu t'en vas, on te demande pardon. Peux-tu revenir encore l'année prochaine? Mais au départ, ce n'était pas pour cela. C'était juste développer. Seigneur, quelle est ta parole? Comment tu dis les choses? Pourquoi tu fais comme ça? Plus poser des questions, développer. Et tu ne sais même pas où ça s'en va. Mais sans t'en rendre compte, tu commences à atteindre une telle dimension, les gens t'appellent un peu partout. Alléluia. Tu vas atteindre un niveau d'artiste, capacité de dessin. Les gens vont vouloir voir tes produits de dessin dans tous les salons de dessin dans le monde. Mais tu as commencé à dessiner, tu dis, descendre, il n'y a pas l'argent là-dedans. J'arrête. Moi, j'allais développer, il faut qu'on m'embauche. Tu ne développes rien. Tu prends un truc de paresse là, tu t'assois, fonctionnaire, assis simplement, tu fais ton petit travail. Développe ton art de dessin. Cultive le dessin. Continue de le cultiver. Fais tes cours de professeur, mais continue de cultiver ton talent. Développe-le. Jusqu'à la maîtrise. Tu vas voir comment ça va t'ouvrir les portes un jour. À un moment donné, les gens vont voir tes peintures, les gens vont voir tes dessins. On dit, waouh. Mais tu as fait. Ton tableau n'est pas encore excellent. Tu n'as pas encore le niveau de l'excellence. Comme personne ne t'a accepté encore, tu es fâché. Tu dis, mon frère, à Abidjan, les artistes ne peuvent pas vivre. Je vais aller devenir autre chose. Et tu fais des trucs qui te fatiguent, qui t'alourdissent la vie, et tu perds ton temps. Tu ne vas nulle part. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, 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 amen. Mais on va s'arrêter là. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Juste pour dire le tout dernier point que je n'ai pas dit. Le sixième point, pour terminer, c'est cultiver afin que votre activité, je l'ai plus ou moins dit, serve au plus grand nombre. C'est ce qu'il appelle dominer. Cultiver afin que votre activité serve au plus grand nombre. Ne cherchez pas la gloire qui vient des hommes. Cherchez à être une bénédiction pour les autres. Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tout le monde, qu'il soit le serviteur du plus grand nombre. Le travail selon Dieu n'est pas un travail où on sert à profiter des gens. Jésus a dit ceci, les rois de la terre, ils exploitent les autres. Mais moi, je vous dis à vous, mes fils, servez les autres. Vous voyez ces enseignements que nous partageons. Le but, je ne peux pas prêcher pour être apprécié. Mais je vais chercher la face de Dieu, par exemple, l'enseignement sur le travail. Je ne le connaissais pas il y a 5 ans. Je ne le connaissais pas il y a quelques mois. Mais lorsque j'ai vu les difficultés des frères à trouver du travail et entreprendre, ça m'amène à aller chercher Dieu. Je dis, Seigneur, ah, tu m'as confié des âmes, tu as confié des brebis, et elles ne travaillent pas, beaucoup de difficultés. Je t'en supplie, Jésus. Quand je vois les témoignages des frères qui m'écrivent, plusieurs n'arrivent pas à manger. Je t'en supplie, Seigneur, même si j'ai de la volonté, que le peu d'argent que je vais partager, ça ne peut jamais suffire. Mais quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et puis il me dit, ils doivent travailler. J'ai dit, mais ils travaillent déjà. Ou ils cherchent du travail et ça n'aboutit pas. Ils font des efforts. Seigneur, je t'en supplie. Et puis il me dit, tu ne connais pas, tu n'as pas encore compris le travail. Et puis il ouvre mes yeux. Vous voyez? Donc c'est un peu comme si en fait, ton travail à développer ce que Dieu t'a donné cherche à résoudre le problème de beaucoup plus de personnes. Tu ne le fais pas parce que tu attends la gloire des hommes. Tu ne le fais pas parce que tu attends un salaire. Tu trouves ta joie lorsqu'une personne a quitté l'aveuglement, l'ignorance, pour entrer dans une connaissance. Amen. Quand par exemple le Seigneur commence à m'expliquer ce dont je vous ai parlé dimanche dernier, sur les secrets du cœur, les trésors du cœur, c'est des fruits de richesse, c'est-à-dire tu pries, parce que tu pleures pour la vie des personnes. Tu as envie d'aider, mais il y en a beaucoup, tu ne sais pas comment tu vas aider les gens. Et c'est en ce moment que tu commences à réfléchir, tu cherches la face de Dieu, et puis il crée, il fabrique, il te donne encore d'autres choses, il te donne. Le but de Dieu, c'est de sauver le plus grand nombre. Car Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu veut sauver le plus grand nombre. Dieu veut que le talent qu'il te donne soit une bénédiction pour plusieurs. Au départ, ce n'est pas d'abord l'évangile que tu vas pourvoir. Peut-être c'est juste que tu vas améliorer tes dessins, c'est juste que tu vas améliorer ta musique, c'est juste que tu vas améliorer ton talent. C'est juste cela. Mais tu vas être tellement efficace dans ce que tu fais, que tu vas t'asseoir à la table des rois. Et quand tu vas baisser la tête pour prier Jésus, quand les gens te demanderont dans les journaux, on va vouloir t'interviewer, on dit, maître en peinture, comment, quel est votre secret? Et tu diras, Christ est la source de mon inspiration. La jeunesse va chercher Jésus. Quand on va te demander, mais quelle est la clé de pourquoi tu fais bien les choses? Comment tu chantes? Tu vas dire, Christ est la source de mon inspiration. C'est parce que les chrétiens ont manqué cette position. Quand on est parti voir les Bob Marley, comment tu t'inspires? Ah, les ganja. La jeunesse dit, hey! Tout le monde. Et on perd des enfants, on perd des familles à cause de la drogue. Des familles sont divisées, des enfants meurent. Et après cette génération des drogués là, qui ont lancé la drogue, les meurtres, les braquages ont augmenté dans toutes les nations. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des personnes qui ont passé le temps à développer l'art de Dieu. Ils ont atteint tel niveau et ils sont devenus un modèle pour la jeunesse. Pendant que nous, les chrétiens, on cherche les 1000 francs, les 2000 francs, comment on va faire pour payer nos loyers? Au lieu de développer, de cultiver les choses que Dieu nous donne, on fait un travail, on est toujours moyen, on est toujours médiocre, on est toujours passable. On fait un travail, tu es dans la communication, dès que tu atteins un niveau, tu as eu 2-3 marchés, tu ne développes plus. Pourquoi? Va loin encore dans la communication, tu attends pas ta mise directeur. Mais on ne peut pas faire plus que ça. Et on s'arrête là. On ne va pas plus loin. Et on n'est pas un modèle pour la société. Jamais on ne veut nous interviewer pour dire, mais comment on fait? Comment on découvre? Pour qu'on puisse dire, Jésus est la source de mon inspiration. Alors la jeunesse va se tourner vers Christ. Les gens se tourneront vers notre Sauveur. Et diront, Jésus est vraiment le roi des rois. C'est lui qui donne la sagesse en économie. Les pharaons vont se tenir là et vont dire, comme ils ont dit, ton Dieu est le Dieu. Des hommes vont se tenir devant votre Dieu. Les Nebuchadnezzar, des gros féticheurs, peuvent regarder Daniel et puis dire, s'il y a un Dieu, ce n'est pas nos fétiches là, c'est ton Dieu. L'humanité a soif de ton Dieu, si seulement si tu es prêt à cultiver ton travail jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen.
Nous allons prier mercredi prochain. On va maintenant rentrer dans le vif du détail sur garder. Aujourd'hui, j'ai voulu revenir sur les points que j'avais cités la dernière fois, ajouter, mais vous les expliquer de manière très pratique et très concrète en ce qui concerne la vie de tous les jours. Amen. Pour savoir cultiver. Ne sous-estimez pas les faibles commencements. Ne sous-estimez pas les activités professionnelles dans lesquelles vous êtes. Même si vous y êtes arrivé de manière involontaire. Même si, quelquefois même c'est par la chair même que vous êtes entré. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas l'enseignement, mais vous faites quand même. C'est pas grave. Si tu as compris, répands-toi et travaille avec le bon esprit. Amen. Et ben, mardi prochain, on va apprendre à garder. Le Seigneur dit, garde, cultive et garde. La Bible dit dans le livre des Proverbes, celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Donc cultiver, c'est une chose. Garder, c'est une autre. Nous avons, pour plusieurs ici, appris à cultiver. Mais beaucoup n'ont pas su garder. Et ils ont perdu ce que Dieu leur avait donné. Dieu va nous donner, à partir du mardi prochain, les clés pour garder tout ce qu'il nous donne. Pour garder. Comment est-ce qu'on garde son travail? Comment on le cultive, on a appris. Comment est-ce qu'on garde? On va l'apprendre. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Si nous avons fauté quelque part, si nous avons mal géré nos activités, humilions-nous devant sa face. Disons, Seigneur, j'ai agi ainsi par ignorance. Maintenant, il faut apprendre, il faut te former, ma soeur, il faut te former. Investis dans la culture. Investis dans cultiver. Paye des livres pour te former encore. Va dans des endroits où tu peux lire et développe ce que Dieu t'a donné de faire. Prie le Seigneur pour qu'il bénisse, qu'il t'apprenne à multiplier ton commerce, à le développer, à mieux faire, à être plus excellente, à être plus excellent dans ce que tu fais. Ne te contente pas de faire et ne te contente pas déjà des clients nombreux que le Seigneur te donne. Va voir plus loin. Vois beaucoup plus loin que la rémunération que ton activité te pourvoit en ce moment. C'est vrai, elle peut te permettre de mettre tes enfants à l'école. Tu as suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de certaines personnes. Non, mais n'oublie pas, la sixième clé du travail de cultiver, c'est le fait que ton activité doit être une bénédiction pour un plus grand nombre. Cela est dans ce que Dieu dit en parlant de dominer. Dominer. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez. Dominer. Et la domination selon Jésus, c'est servir un plus grand nombre. Jésus dit, celui qui veut dominer, celui qui veut régner, celui qui veut être le chef des autres, qu'il soit d'abord celui qui apporte un service aux autres. Dieu veut que nous servions un grand nombre. L'humanité attend ce que Dieu a déposé en toi. Mais toi, tu ne cultives pas suffisamment le talent que Dieu a déposé. Tu l'as cultivé jusqu'à un certain niveau. Mais tu ne l'as pas cultivé jusqu'au niveau de remplir. Tu as peut-être cultivé jusqu'au niveau de remplir, mais tu n'as pas cultivé jusqu'au niveau de l'assujettissement, de la maîtrise parfaite. Tu as peut-être cultivé jusqu'au niveau de la maîtrise, de l'assujettissement, mais tu n'as pas cultivé jusqu'au niveau de la domination. C'est-à-dire que la grâce qu'il t'a faite serve à un plus grand nombre. Cultiver doit te faire passer tous ces échelons. Qu'il en soit ainsi, que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Tiens-toi debout, ma soeur, mon frère. Tiens-toi debout. Tu peux lever les mains vers le Seigneur. Dans le nom de Jésus, l'Éternel bénit le travail de tes mains. L'Éternel te rend habile. Dis amen. L'Éternel donne à ce que tu touches est béni. L'Éternel te donne le savoir-faire. Il te donne le cœur qui travaille à fond.
L'Éternel ouvre les portes devant toi pour mener à bien ton projet. L'Éternel bénit tes œuvres dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu fais de nous des travailleurs, des travailleuses, des personnes qui travaillent selon toi, qui travaillent avec ton cœur, qui développent selon ton cœur. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Merci pour les feux de ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus, amen. Amen.
Merci d'avoir suivi ce message et n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez reçus du Seigneur. You came from here.